Bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'univers des archives. Qu'évoque pour vous le monde des archives? Un lieu poussiéreux, réservé uniquement à d'austères chercheurs? Un univers figé, ennuyant à souhait? Si vous voyez les choses ainsi, l'archiviste cantonal Alain Dubois va sans doute vous faire changer d'avis. En introduction, voici un court extrait de l'interview qu'il m'a accordé. En l'écoutant, je crois que vous vous direz que ce métier peut faire naître de belles émotions. On écoute Alain Dubois.
Il y a une émotion qui est liée aux documents d'archives. Il y a des émotions esthétiques par rapport à des manuscrits où tout d'un coup il y a des enluminures qui sont absolument magnifiques. Il y a une émotion qui est liée peut-être aussi à la personne qui a signé les documents. Aux archives d'État du Valais, nous avons des documents signés par Napoléon ou par Louis XIV. Et parfois, il y a des situations assez cocasse qui se passe quand je fais des visites. Et un jour, notamment, j'avais présenté un graduel au chapitre de la cathédrale et à l'évêque de Sion.
Qu'est-ce qu'un graduel?
Alors, un graduel, c'est un recueil de chants. Et ce graduel a été réalisé en Italie au début du XVIe siècle. Et puis, j'avais ouvert ce graduel sur le chant du Requiem, non pas pour le contenu même du chant du Requiem, mais par contre par rapport à l'initiale ornée qui était absolument magnifique, décorée à la feuille d'or avec des motifs végétaux extraordinaires. Et à un moment donné, l'évêque de Sion a commencé à entonner le Requiem. Et tous les chanoines qui étaient autour de lui ont poursuivi. Donc là, c'était un moment d'émotion. Une autre fois, avec le chanteur Marc Aymon aussi, je lui ai montré des chants de la fin du 19e siècle et il a pris sa guitare et il a commencé à jouer.
Alain Dubois, notre invité de ce jour, s'occupe donc des archives du canton du Valais. Il nous explique quelle est sa formation de base.
Alors, j'ai une double formation. J'ai fait tout d'abord une licence en lettres à l'université de Fribourg, en histoire et en langue et littérature latine. Et puis, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la conservation du patrimoine. C'est en fait une passion qui s'est révélée lorsque j'avais 7-8 ans à l'école. Et pour pouvoir assouvir cette passion, en tous les cas l'exercer d'un point de vue professionnel, je suis allé à l'école des Chartes à Paris, qui est l'école qui forme les conservateurs du patrimoine, qui travaillent aussi bien en archives, bibliothèques et musées. Donc j'ai une licence en lettres et puis un diplôme d'archiviste paléographe.
Je vous propose une petite visite dans le bâtiment des Arsenaux, situé près du centre-ville de Sion. Cette bâtisse était autrefois, comme son nom l'indique, un entrepôt militaire. Aujourd'hui, elle abrite la médiathèque de Sion ainsi que les Valésianats. Vous vous demandez ce que sont les Valésianats? Eh bien, il s'agit d'un espace qui regroupe les archives de l'État du Valais, de la médiathèque et des musées cantonaux. En vous adressant à un même guichet, vous pouvez donc demander de consulter des archives de ces trois institutions. Quel est l'ordre de grandeur de ces archives? On écoute la réponse d'Alain Dubois.
Donc aujourd'hui, les archives d'État du Valais, c'est 17 km linéaires de documents qui documentent 1000 ans d'histoire valaisanne, puisque le document le plus ancien date du 24 septembre 1005. C'est un acte d'échange de propriété entre l'évêque de Sion, qui s'appelait Hugues, et son homologue de Genève, qui s'appelait également Hugues. Et ces deux évêques échangent des terrains dans la région de Villeneuve.
Nous allons maintenant nous rendre dans les sous-sols du bâtiment où sont entreposés les documents d'archives. Pensez peut-être à prendre un gros pull avec vous, car il y fait assez frais. Ceci afin de garantir de bonnes conditions de conservation. On écoute notre guide qui va nous faire découvrir un magnifique parchemin.
Nous nous trouvons dans la réserve qui contient vraiment les documents les plus précieux qui sont conservés par les archives de l'État du Valais. Et parmi les trésors qui sont conservés, pour moi, le trésor par excellence, c'est ce manuscrit que nous avons devant nous, qui est le manuscrit des Six Âges du Monde, qui est un récit de l'histoire du monde depuis sa création jusqu'à la crucifixion du Christ. Et c'est un manuscrit qui est conservé dans la bibliothèque dite Super Saxo. C'est une bibliothèque qui a été constituée à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle par Walter Supersaxo, qui était évêque de Sion, et son fils Georges. Et ce manuscrit des Six Âges du Monde est absolument extraordinaire. Donc il faut imaginer un rouleau de parchemin qui, si on le déroule complètement, fait 8,50 m. Et il faut imaginer un texte qui est alterné par des images, puisque au moment de la production de ce manuscrit, on est entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle, eh bien, la majorité des gens ne savaient pas lire. Et donc, on utilisait énormément l'illustration pour raconter les épisodes bibliques. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une civilisation de l'image. Au Moyen-Âge aussi, on avait une civilisation de l'image pour pouvoir enseigner les épisodes bibliques à la population.
Est-ce que vraiment ce document était très souvent consulté par la population? Est-ce que c'était plutôt majoritairement des gens d'église qui le consultaient?
Alors, c'est essentiellement des gens qui appartiennent aux plus hautes strates de la société. Walter Supersaxo était évêque de Sion, son fils Georges a exercé différents offices, c'était même le banquier des principaux souverains en Europe. Donc là, je dirais que c'est l'élite valaisanne de cette époque qui pouvait se permettre déjà d'acheter ce type de manuscrit, parce qu'il faut imaginer que ce manuscrit devait coûter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de francs si on rapporte à la valeur actuelle des biens. Et puis, vous voyez qu'il y a un soin très, très particulier qui est apporté, notamment à la mise en page. On a des lettrines qui sont réalisées à la feuille d'or. Les jointures entre les parchemins sont soigneusement cachées, alors qu'habituellement, on a des fils de chanvre qui sont simplement cousus de part et d'autre de la peau de parchemin pour raponcer deux peaux entre elles.
Donc, si on comprend bien, toutes ces pages ont été faites séparément les unes des autres et après, elles ont été appendues, si on veut.
Exactement. Ce manuscrit est conservé aujourd'hui à deux exemplaires dans le monde. Donc, il y a un exemplaire qui est conservé ici en Valais et l'autre dans une bibliothèque française. Et ce qui est extraordinaire donc à travers ce manuscrit, c'est qu'on a non seulement le déroulement de l'histoire depuis la création du monde jusqu'à la crucifixion du Christ, mais on a aussi une généalogie qui part d'Adam pour descendre au Christ, pour montrer que le Christ descendait du premier homme, donc Adam.
Est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça pouvait prendre pour faire une page ou pour faire la totalité du document ?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre emploi du temps est minuté de manière très très précise. À cette époque-là, il faut vraiment imaginer que les gens qui réalisaient les copies de ces manuscrits étaient dans une autre dimension temporelle. Donc c'était en général des moines copistes qui consacraient leur vie à Dieu et à la prière, et puis qui, entre les offices, s'adonnaient à des tâches, donc soit l'écriture ou alors les travaux, je dirais, agricoles. Donc il faut imaginer que quand les gens composaient ces textes, ils entraient dans une forme de méditation et peu importait le temps qui était consacré à la réalisation de l'ouvrage, pourvu que l'ouvrage soit... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs types de personnes qui intervenaient pour la confection d'un tel manuscrit. Il y a tout d'abord une première personne qui était chargée de faire ce que nous, on appelle la réglure. Aujourd'hui, quand vous composez un texte sur Word, vous avez une puce qui vous permet de justifier à droite et à gauche et une autre puce qui vous permet de définir l'interligne. À cette époque-là, on n'avait pas de moyens informatiques. Et donc, on avait des systèmes de règles graduées qui permettaient de définir l'intervalle entre les lignes. Et puis, on plantait des clous vraiment de chaque côté du manuscrit, à gauche et à droite. On tendait des lignes et puis avec des fils avec du plomb, on traçait les lignes. Et d'ailleurs, on voit ici encore des restes de cette réglure. Donc, il y a une première personne qui était chargée de définir la mise en page. Ensuite, il y a une deuxième personne qui écrivait le texte. Comme on a un manuscrit où l'illustration est aussi importante, une troisième personne était chargée de faire les dessins. Et puis enfin, une quatrième personne intervenait pour réaliser les lettrines à la feuille d'or.
Alors les lettrines, c'est la première lettre de chaque paragraphe.
Voilà, exactement. Donc c'est la première, enfin, c'est l'initiale du premier mot du texte qui est toujours mis en valeur. Et ici, on a utilisé la feuille d'or. On voit encore beaucoup de restes de cette feuille d'or. Et puis, on a également des motifs géométriques. Parfois, on peut avoir des motifs végétaux. Moi, j'ai toujours une certaine émotion à voir ces documents parce qu'en règle générale, c'est pratiquement la seule trace qui subsiste du passage sur Terre des personnes qui ont confectionné ce manuscrit. Et donc, vous voyez, ce manuscrit a été réalisé grosso modo au début 1400. Ça fait plus de 600 ans qu'il a été réalisé et on arrive à être en quelque sorte en communion avec nos prédécesseurs.
Il est dans un excellent état.
Et il est dans un excellent état. Alors, il y a quelques traces d'usure hein, sur les côtés. Mais ce manuscrit n'a jamais été restauré, alors il mériterait un nettoyage. Et puis surtout, c'est un trésor qui nous a été légué. Il faut imaginer aussi la somme de personnes qui a dû se succéder pour nous transmettre en fait ce manuscrit. Il faut aussi qu'on puisse le transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Dans la conservation du patrimoine, on a un peu un maillon d'une chaîne qui remonte haut dans le temps. Et puis on espère qu'il pourra aller le plus loin possible. Et donc pour pouvoir préserver cette source, on dispose maintenant des technologies de l'information et de la communication, et on a fait numériser ce manuscrit il y a quelques années par la bibliothèque Bodmer à Cologny. Et donc vous avez la possibilité de voir ce manuscrit aujourd'hui en ligne sur une plateforme qui s'appelle e-Codices, qui recense tous les manuscrits qui sont conservés, ou en tous les cas les manuscrits les plus emblématiques qui sont conservés dans les bibliothèques et les archives en Suisse.
On a parlé de la conservation des documents. Ici, il fait un petit peu plus froid. Est-ce que c'est pour justement des raisons de conservation?
Alors effectivement, l'idée est de pouvoir assurer la transmission de ces biens culturels aux générations à venir. Et puis, on a des locaux qui doivent respecter un certain nombre de prérequis. Donc on essaie d'avoir une température qui soit contrôlée sur l'ensemble de l'année. Et puis, elle peut descendre jusqu'à 13 degrés en hiver et puis monter jusqu'à 23 ou 24 degrés en été. Et puis on essaye aussi d'avoir un taux d'humidité contrôlé, on parle du taux d'hygrométrie qui doit varier de 40, entre 40% et 60% au maximum. Si on excède la valeur de 60%, on a une probabilité de développement de moisissures. Et si on se trouve en dessous de 40%, on est dans un air qui est beaucoup trop sec et qui risque de fragiliser en fait les documents et puis de provoquer des cassures.
Donc Donc ici, concrètement, vous avez des appareils qui relèvent quotidiennement ces mesures, et si jamais il y avait un problème, ça vous serait automatiquement...
Exactement, donc il faut imaginer les appareils de mesure qu'on appelle des thermohygromètres, hein, c'est le terme consacré qui relève vraiment ponctuellement ou périodiquement les mesures et puis qui envoie une alarme en cas d'écart par rapport aux normes que l'on a définies. Après, on applique des normes qui sont relativement strictes en matière de conservation du patrimoine. Il faut imaginer aussi que la plupart des documents qui sont conservés aux archives d'État du Valais, notamment les documents du Moyen Âge, étaient conservés en règle générale dans les églises et dans les clochers des églises, où là, on avait des écarts de température qui étaient quand même relativement grands. Parfois, on pouvait avoir des écarts de température, je pense, de 60, 70 ou 80 degrés. Vous pouvez avoir tout à fait des températures de moins 30. Imaginez dans la vallée de Conches, moins 30 en hiver et puis peut-être 40 ou 50 degrés en été quand on avait le soleil qui tapait contre le clocher. Donc, c'est des documents qui ont été transmis, qui nous ont été transmis et on a la responsabilité en fait de les conserver.
Encore une autre question concernant la conservation. On voit parfois que les archivistes manient ces documents avec des gants. Pour quelle raison?
Alors, les gants sont une forme de barrière psychologique que l'on met au moment où on fait la présentation. Il y a bien évidemment des raisons objectives qui font qu'on les prend, pardon, on revêtit des gants. L'idée est d'éviter que la sueur des doigts provoque des dommages et des altérations chimiques avec les biens culturels, qu'il s'agisse de parchemin ou de papier. La problématique que l'on a après avec les gants est qu'on est beaucoup moins habile de ses doigts. Il faut faire la balance Moi, il m'arrive assez régulièrement de me laver les mains et de ne pas mettre de gants pour éviter justement d'abîmer les biens culturels.
Alain Dubois, est-ce que vous avez en tête le souvenir d'une découverte ou d'un fonds qui vous a été légué, qui vous a vraiment ému, je dirais, qui a été une belle surprise pour vous?
Oui, le fonds du chapitre de la cathédrale de Sion, alors qu'il va être déposé physiquement en début d'année prochaine, mais le contrat de dépôt a déjà été signé. C'est un fonds qui est absolument extraordinaire, qui documente 1000 ans de l'histoire d'une institution qui a quand même marqué le Valais, qui est le chapitre de la cathédrale, qui était en quelque sorte le bras administratif de l'évêque de Sion. Et vous avez dans ce fonds des documents absolument extraordinaires. Il y a une série de 700 registres de minutes de notaire de 1275 au XVIIIe siècle. On a les procès-verbaux des calendes, qui étaient les réunions périodiques du chapitre, depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc on arrive comme ça à documenter en fait la vie d'une institution à travers les siècles. Il y a des documents qui sont absolument extraordinaires. Imaginez, il y a notamment dans ce fonds d'archives le plus ancien registre sur support papier au nord des Alpes et le plus ancien minutier de notaire en Suisse. Ce sont les minutes du notaire Martin de Sion, maître Martin de Sion. Et puis après, il y a dans le fonds d'archives aussi des manuscrits extraordinaires, dont un manuscrit de droit qui date de l'an 800. Donc imaginez toute la chaîne de conservation qu'il a fallu avoir pour transmettre ce document pour que 1200 ans plus tard, on puisse toujours l'avoir en face de soi. Donc on peut déclencher vraiment cette émotion. Et puis le document d'archives, loin d'être poussiéreux, au contraire, nous permet vraiment de nous rattacher à nos ancêtres. Et moi, ce qui me fascine, plus j'avance dans mon métier, c'est de voir la permanence des sentiments humains. Les sentiments de détresse, les sentiments d'amour, les sentiments de haine sont toujours les mêmes, décrits de la même manière, que ce soit au XVIe siècle ou au XXe siècle. Et finalement, c'est ça aussi qui fait le sel des archives. Il y a certes les archives des élites ou du pouvoir, mais il y a aussi les archives du peuple. Je me souviens aussi de toute une série de testaments qui ont été rédigés pendant la peste noire, donc aux alentours de 1350, où les gens mouraient, mais vraiment les uns après les autres, ils tombaient un peu comme des mouches. Et puis avant de mourir, il fallait faire son testament. Et là, on a des gens qui étaient mais complètement démunis par rapport à la maladie, parce qu'on ne savait pas comment la contagion se passait. Alors, ils léguaient leurs biens à leur famille, et puis ils remettaient surtout leur âme à Dieu, mais on sentait tout le désespoir dans l'écriture du testament. Et puis, on avait des compositions familiales qui étaient complètement chamboulées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pouvait peut-être avoir une personne qui léguait ses biens à ses arrière-grands-parents, parce que les autres membres de sa famille étaient décédés. Ou tout d'un coup, une grand-mère qui léguait ses biens à ses arrière-petits-fils. Donc on voyait vraiment toute une société qui a été complètement chamboulée.
Est-ce que vous sauriez me dire quel est le document le plus ancien que vous avez chez vous?
Alors c'est un acte d'échange entre l'évêque de Sion, qui s'appelait Hugues, et l'évêque de Genève, qui s'appelait également Hugues. Et ces deux évêques échangent des terrains dans la région de Villeneuve le 24 septembre 1005.
Évidemment en latin.
Alors évidemment en latin, qui était la langue internationale de l'époque, et qui va rester cette langue internationale jusqu'au
jusqu'au
19e siècle.
19e siècle. Ouais. Donc la plupart des documents écrits que vous avez avant le 19e siècle sont en latin.
Oui, je
presque
dirais
tous.
que pratiquement tous les documents qui ont été conservés sont en latin. 90%, grosso modo, 5% en français, 5% en allemand. Et puis après, il y a des langues un petit peu plus originales. Donc les Valaisans ont aussi énormément voyagé. On a des passeports en espagnol, en italien. Et puis on a également des documents qui ont été rédigés dans des langues un petit peu plus exotiques, disons, pour le Valais. On a notamment tout un catéchisme en 12 tomes en arabe. Avec de la glose, donc des commentaires entre les lignes et puis dans les marges. Et ce manuscrit a été élaboré dans les années 1570.
À quel endroit?
Alors, ça devait être certainement en Orient, mais je sais pas, on n'a pas réussi à déterminer dans quel lieu précisément. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un texte chrétien qui est commenté par des commentateurs arabophones. Et puis, on a aussi un document en chinois qui nous a été transmis. Et là, apparemment, c'est un rapport des services secrets chinois au moment de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, après Pearl Harbor.
Et pourquoi est-ce qu'il a atterri ici?
Alors là, c'est les hasards de la conservation. Le document a été conservé dans un fonds qui nous a été remis, et puis on l'a conservé avec nous. Alors bien évidemment, on n'avait pas les compétences pour savoir quel était le contenu du texte. Et donc, c'est l'Université de Genève qui a fait un résumé du document.
Alain Dubois, tous ces documents qui sont entreposés ici, est-ce qu'on peut les prendre chez soi pour les consulter ou est-ce qu'ils doivent rester ici?
Contrairement aux ouvrages d'une bibliothèque, il n'est malheureusement pas possible d'emprunter chez soi ces documents. Donc on les consulte dans une salle où aussi les conditions de consultation sont strictement contrôlées du point de vue de la température et puis de l'hygrométrie.
Une autre question qui se pose, est-ce qu'on peut consulter tous les documents qui sont ici ou est-ce qu'il y a des restrictions?
Alors, pour les documents les plus récents, on applique ce qu'on appelle des délais de protection. C'est une période pendant laquelle les documents sont inaccessibles. Cette période ou ce délai de protection varie en fonction de la nature du dossier. Donc il y a des dossiers qui sont immédiatement consultables, typiquement une publication officielle, des comptes ou des budgets imprimés sont immédiatement communicables, il n'y a pas de restrictions qui s'appliquent. Ensuite, pour les documents qui sont produits par l'État, par les communes, mais même aussi par certains privés, on applique un délai de protection de 30 ans à compter de la clôture du dossier. Ce qui signifie que si on prend la date d'aujourd'hui, le 6 juin 2019, eh bien tous les documents qui sont postérieurs au 6 juin 1989 sont pas accessibles. C'est une forme de droit à l'oubli que l'on applique. Et puis, pour des documents ou des dossiers qui contiendraient des données personnelles ou des données sensibles, là, on applique un délai de 100 ans à compter de la clôture du dossier. Aussi pour éviter que des données sensibles ne tombent dans les mains du public. Alors, bien sûr, la personne concernée peut consulter le dossier qui le concerne. Par contre, pour des tiers, on fait respecter ces délais de protection.
Question pratique, si je veux faire de la généalogie, je veux savoir avoir des renseignements sur mes arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, où est-ce que je peux aller et est-ce que j'ai accès facilement à ces documents?
Donc, si vous faites des recherches généalogiques, vous pouvez mobiliser différents types de sources. Donc, si on remonte le plus haut dans le temps et puis on revient plus proche de nous, donc l'état civil avant la création de l'état civil à la fin du 19e siècle était assuré par les églises. Et donc, on a ce qu'on appelle des registres de paroisse qui sont apparus en Valais au tout début du 17e siècle. Et donc, dans ces registres, on enregistrait systématiquement les baptêmes, les mariages et les décès des personnes. Donc là, vous pouvez reconstituer progressivement les arbres généalogiques. L'Église a ce rôle officieux d'état civil jusque pratiquement à la fin du 19e siècle, où à partir de 1876, l'état civil est mis en place. Et si vous voulez consulter des données postérieures à 1876, eh bien là, vous devez vous rendre dans les arrondissements d'état civil. Une autre source qui peut être mobilisée, ce sont les recensements de la population valaisanne qui commencent à apparaître à partir du 19e siècle et qui permettent d'avoir vraiment une photographie sur un lieu donné à un moment précis. Donc on a toute une série de recensements avant l'institutionnalisation de 1850 ou à partir de 1850, on aura tous les 10 ans des recensements. Donc 1850, 1860, 70, 80, etc. etc.
Et si justement, je veux consulter des documents. Est-ce que je dois justifier, est-ce que je dois prouver que je suis de cette famille ou dans le fond, c'est accessible à tout le monde?
Alors, pour consulter les registres de paroisse, il y a une autorisation à obtenir du curé de la paroisse dans laquelle on recherche les documents. Et puis, l'évêché a établi des règles qui interdisent la consultation des registres de paroisse postérieurs au XXe siècle. Ensuite, si vous voulez consulter l'état civil, là aussi, vous avez des règles qui s'appliquent liées à la protection des données et on a des délais de 100 ans qui s'appliquent par rapport à la consultation des documents. Ce qui fait que si vous souhaitez consulter systématiquement l'état civil d'une région, vous pouvez le faire que jusqu'au début du XXe siècle et pas forcément pour des périodes postérieures.
Et pour en revenir à ma question, je dois prouver que l'ancêtre
Non, alors après, une
ou
fois,
même pas.
pardon, une fois les délais éteints, les délais de protection éteints,
Ah, là, c'est bien.
la consultation est totalement libre.
On a vu tout à l'heure que pour consulter ces archives, il faut aller aux arsenaux dans une salle à part. Est-ce qu'il vous est quand même arrivé d'avoir des cas de vol ou des gens qui dégradaient intentionnellement un document?
Alors, pas que je sache, donc il y a des traces de vandalisme qu'on peut percevoir sur des documents anciens ou notamment à certaines époques, on volait les armoiries, donc on n'hésitait pas à découper des parchemins ou des documents. Après, depuis que j'ai commencé à exercer, alors pas forcément aux archives d'État du Valais, aussi dans d'autres institutions, j'ai pas forcément constaté ce type de mesures. En fait, on essaye aussi de mettre en place des procédures qui évitent justement ce type de vandalisme. La salle de consultation des arsenaux, par exemple, est un cube de verre. Donc, si quelqu'un tout d'un coup voulait découper un document, on le verrait tout de suite. Et puis peut-être qu'il y a un autre procédé aujourd'hui qui évite justement ce vandalisme, c'est qu'on laisse en général les gens photographier les documents. Donc ils peuvent emporter avec eux quand
Sans
même,
flash.
sans flash bien évidemment.
Évidemment.
Mais les gens peuvent ensuite emporter le document sous forme dématérialisée chez eux.
Est-ce qu'il y a beaucoup de documents qui sont numérisés sur 100 documents? Combien est-ce qu'il y en a qui sont numérisés, qu'on peut consulter directement sur Internet?
Alors, la politique de numérisation s'inscrit dans une politique générale d'un service d'archives. Et puis, l'énergie pour les archives d'État du Valais a plutôt été déployée ces dernières années sur la construction des nouveaux dépôts et surtout sur la préparation du déménagement. Donc, on a vraiment concentré nos forces sur le traitement et le traitement rétrospectif de nos fonds d'archives et moins sur la numérisation. Pour autant, donc, il y a quand même un certain nombre de sources qui ont été numérisées. Et là, on avait deux objectifs en matière de numérisation. On numérise pour protéger des sources qui sont extrêmement consultées. J'ai mentionné tout à l'heure les recensements de la population valaisanne. En fait, c'est une source qui est extrêmement consultée par les généalogistes. Et puis la consultation multiple faisait qu'on risquait d'abîmer les documents. Donc on a numérisé pour protéger un document original et en assurer la transmission aux générations futures. Et puis, il y a d'autres documents qui concernent l'histoire valaisanne, mais qui ne sont pas conservés en Valais, sont conservés à l'étranger. Et c'est notamment le cas pour toutes les archives qui concernent le Valais savoyard. Donc, entre le XIIIe siècle et puis le début du XVIe siècle, fin XVe siècle, début du XVIe siècle, on a toute une partie du Bas-Valais, comprise entre le lac Léman et puis la Manche de Comté, qui était sous domination savoyarde. L'administration savoyarde a mis en place des contrôles très stricts en matière de population et puis en matière de fiscalité. Et c'est une source qui est absolument précieuse, qui aujourd'hui est conservée à l'archivio di Stato de Turin. Et donc, si on souhaite consulter cette source, il faut pratiquement prendre une chambre à Turin pendant quelques mois. Et donc, l'État du Valais a, il y a une dizaine d'années, décidé de faire numériser la totalité de ces sources. Donc, on a à l'heure actuelle ces deux types de sources numérisées. Ça représente à peu près 180 000 documents numérisés. Et puis, on numérise aussi toute une série de cartes et plans. Mais l'objectif pour moi, une fois le déménagement terminé en 2020, c'est vraiment qu'on puisse se lancer, pas forcément dans une politique de numérisation systématique, parce qu'il y a des coûts liés à la conservation des images numériques qui sont extrêmement élevés, mais qu'on le fasse vraiment de manière systématique, le but étant aussi de permettre aux gens de se réapproprier leur propre passé.
Une autre question, comment est-ce que vous décidez s'il faut archiver un nouveau document? Par exemple, si je retrouve dans une vieille malle une lettre qui a été écrite par ma tante et qui aurait peut-être une valeur historique, comment est-ce que vous décidez s'il faut l'archiver ou pas?
Alors, il y a une tâche essentielle du métier d'archiviste qui est ce qu'on appelle l'évaluation, qui est justement de définir ce que l'on va conserver ou pas. Alors, pendant des siècles, Il y avait une élimination, je dirais, un peu naturelle des documents, ce qui fait que pour les périodes anciennes, on a tendance à collecter de manière systématique ce qui est produit. Par contre, aujourd'hui, on fait face à ce qu'on appelle, nous, de l'infobésité, c'est-à-dire une volumétrie de documents qui est absolument immaîtrisable. Et donc, on applique des règles très strictes. Je peux vous citer des exemples par rapport à l'État du Valais. Un de mes collègues dit que nous sommes les éliminateurs officiels de l'État, et c'est bien ça, c'est-à-dire que les archivistes ne sont pas conservateurs, mais au contraire, ils vont chercher à collecter une trace représentative des activités d'un service de l'État. Et donc, on garde en moyenne entre le 5 et le 10% de ce qui est produit. Donc, on ne va pas garder les éléments de manière exhaustive, mais vraiment de manière représentative, par échantillonnage, par nom de famille, ou une année sur 5, une année sur 10. Alors, bien évidemment, il y a des séries de dossiers qui n'ont aucune valeur archivistique. Typiquement, les permis de circulation ou les permis de conduire n'ont pas forcément de valeur en tant que telles. Ce sont les statistiques qui sont produites par le service de la circulation routière qui sont intéressantes. Au contraire, si on a des litiges, là, on va garder la totalité des dossiers. Donc, tous ces critères d'échantillonnage, tout ce qui concerne l'évaluation, est fait par les archivistes, mais aussi avec les services d'origine des documents. Donc, c'est une espèce de double évaluation, si vous voulez, qui est faite. Le but étant qu'on transmette aux générations futures l'image la plus exhaustive, la plus complète de la société valaisanne dans toutes ses dimensions, mais avec une mémoire qui est clairement documentée. Alors, c'est clair qu'on fait des choix. Les choix, on les fait sur la base quand même d'une pratique qui n'est pas spécifique au Valais, mais qui s'applique à une profession qui exerce au niveau de la planète entière. Et puis, on sait qu'on sera critiqué par rapport à des choix que l'on fait aujourd'hui, comme nous, on critique aussi parfois les choix qui ont été faits par nos prédécesseurs.
Dernière question, est-ce que les classes sont bienvenues chez vous pour des visites, des choses comme ça?
Oui, alors on essaye vraiment aussi de promouvoir les archives. C'est vrai que pendant très longtemps, les archives et les archivistes avaient un public fétiche, c'était celui des chercheurs. Et puis aujourd'hui, au contraire, pour moi, ce qui est important, c'est que tout le monde se réapproprie ce passé. Les archives de l'État du Valais sont au service de la totalité de la population valaisanne, pas de quelques chercheurs. Et on a des partenariats avec certaines écoles. Notamment avec le Collège des Creusets, où les latinistes viennent en première année, troisième année et cinquième année du collège. Première année, simplement pour montrer aux élèves que le latin ne s'arrête pas à la chute de l'Empire romain d'Occident, mais au contraire dure au 19e siècle. On leur montre également des documents d'histoire valaisanne. Et puis, en dernière année de collège, ils font vraiment toute la transcription d'un document et de la traduction de ce document en français. Après, on a des classes d'apprentis aussi qui viennent. Et puis j'essaye toujours de montrer à ces classes d'apprentis que le métier pour lequel ils font l'apprentissage a une histoire.
C'est ainsi que s'achève cette interview. Il me reste à remercier Alain Dubois pour sa disponibilité. Merci également à tous nos auditeurs et à bientôt.